L'arrêt de Zeus, conte grec, par Henri Sienkiewicz. Apollon et Hermès, s'étant rencontrés un soir sur les sommets du Pnyx, s'arrêtèrent sur le bord d'un rocher escarpé pour contempler la ville d'Athènes. La soirée était délicieuse. Le soleil, après avoir tourné de l'archipel à la mer Ionienne, plongeait son disque lumineux dans les eaux tranquilles d'un bleu de turquoise. Les cimes de l'Hymette et du Pentélique resplendissaient comme de l'or fondu, le ciel s'empourprait des lueurs de feu et l'acropole se baignait dans une clarté immense. Les marbres blancs des Propylées, du Parthénon et de l'Érechtéion semblaient avoir perdu tout poids. Ils paraissaient aériens, roses, telle une vision, un rêve. La pointe de la gigantesque lance d'Athéna Promachos brillait comme un flambeau allumé au-dessus de l'Attique. Des vautours regagnaient leur nid dans les roches en se balançant sur leurs ailes déployées toutes grandes. Des groupes d'hommes et de femmes rentraient dans la ville après les travaux des champs. Sur la route du Pirée s'avançaient des ânes et des mulets chargés de paniers pleins d'olives ou de grappes de raisins dorés. Des chèvres aux cornes recourbées les suivaient dans des tourbillons de poussière rose. Un bouc blanc, barbu, précédait chaque troupeau. Des chiens vigilants couraient des deux côtés, et le berger, jouant de la musette, fermait la marche. Des bœufs traînaient paresseusement des chars d'orge destinés aux dieux. De temps à autre se croisaient des détachements d'hoplites cuirassés d'airain, chargés de services au Pirée ou à Athènes. Dans la plaine, la ville frémissait de vie. À la grande fontaine, près de Poïkilé, des jeunes filles vêtues de blanc puisaient l'eau, chantaient et riaient aux éclats. Des jouvenceaux essayaient de les enlacer dans des couronnes de lierre ou de chèvrefeuille. Elles s'en défendaient et se sauvaient. D'autres encore s'en retournaient chez elles, une amphore sur la tête, le bras levé pour la soutenir, aussi gracieuse, aussi légère que des nymphes immortelles. Une brise tiède de la plaine d'Attique apportait aux deux jeunes dieux le bruit des rires, des chants et des baisers. Le dieu aux flèches d'or, qui ne connaît rien de plus doux qu'une femme, se tourna vers son céleste compagnon en disant « Fils de Maïa, que les Athéniennes sont belles !» Et vertueuses, dieu rayonnant, car Pallas veille sur elles. Le dieu à l'arc d'argent se tut. Il regardait et écoutait. Des lueurs rouges du couchant s'éteignaient, le bruit faiblissait. Les esclaves scythes fermèrent les portes de la ville, il se fit un silence profond. Une nuit douce comme l'ambroisie enveloppa l'acropole et la plaine de ses ténèbres piquées d'étoiles. Mais le crépuscule fut de courte durée. La pâle Sélène surgit des flots de l'archipel et s'avança comme une légère nacelle dans l'espace céleste. Les marbres de l'acropole s'éclairèrent de nouveau, mais cette fois d'une clarté d'émeraude, et ils n'en ressemblaient que plus à une apparition fantastique. « Il faut convenir, dit le fils de Latone, qu'Athénée a su choisir un lieu enchanteur pour son séjour. « Oh, elle n'est pas bête, répliqua Hermès, et Zeus a pour elle un faible extraordinaire. Pour peu qu'elle lui caresse la barbe, il l'appelle Tritogénéia, sa fille chérie, lui promet tout ce qu'elle désire, et inclinant sa tête, la laisse faire tout ce qu'elle veut. » Tritogénéia commence par m'agacer, grommela le fils de Latone. « Oui, elle devient un peu amusante, dit Hermès. Comme un vieux péripatéticien, et vertueuse à vous donner des nausées, tout comme ma sœur Artémise, ou bien comme ses fidèles, les Athéniennes. Apollon se tourna vers Hermès. On dirait que tu vantes leurs vertus à dessein. Sont-elles réellement si inflexibles? Fabuleusement inflexibles, ô fils de Latone. Tiens, penses-tu qu'il y en ait une seule capable de me résister? Je pense que oui. À moi, Apollon? Oui, dieu du soleil. À moi, qui l'affolerais de poésie, la charmerais de chant et de musique? Oui, dieu du soleil. Si tu étais une divinité honnête, je te proposerais un pari. Mais toi, destructeur d'Argos, dès que tu auras perdu, tu te sauveras avec tes sandales ailées, ton caducée et adieu le pari. Non. J'appuierai une main sur la terre, l'autre sur la mer, et je jurerai par Hadès. Tu sais que même les magistrats d'Athènes tiennent pareil serment. Pas tant que ça, mais n'importe. Si tu perds, tu me livreras à Trinacri un troupeau de bœufs à longues cornes volées où tu voudras. Tu m'as joué pareil tour quand tu n'étais qu'un jouvenceau. Entendu. Et toi, que me donneras-tu si je gagne? choisis toi-même. Eh bien, je serai franc avec toi, Dieu à l'arc d'argent. Ce qui n'arrive guère, tu le sais. L'autre jour, envoyé par Zeus, je ne sais plus pour quelle affaire, j'ai dû traverser la Trinacrie et j'ai remarqué l'Empésie, qui, avec Phaétus, garde tes troupeaux. Dès ce moment, le repos m'a fui. Le souvenir de l'Empésie ne me quitte plus. Je ne vois qu'elle, je ne soupire que pour elle nuit et jour. Si je gagne, s'il se trouve à Athènes une femme assez vertueuse pour te résister, tu me donneras l'Empésie. C'est tout ce que je te demande. » Le dieu du soleil hocha sa tête rayonnante. « Et dire que l'amour va se nicher dans le cœur d'un patron de marchand. Mais très volontiers, je te donnerai l'Empésie avec d'autant plus de plaisir qu'elle ne peut s'accorder avec Phaétus. Entre parenthèses, elles sont amoureuses de moi et ne font que se disputer. » Les yeux d'Hermès pétillèrent de joie. « Alors c'est entendu, mais tu m'accorderas encore ceci, que je choisisse la femme capable de résister à la puissance divine. Pourvu qu'elle soit belle, elle sera digne de toi. Avoue que tu en as une en vue, je l'avoue. Fille, veuve ou femme mariée ? Femme mariée, cela va de soi. La fille ou la veuve se laisserait prendre par la promesse du mariage. Son nom ? Eriphile, femme d'un boulanger. » « Femme d'un boulanger ? » répéta le dieu rayonnant avec une grimace. « C'est peu tentant. Que veux-tu ? C'est le monde que je connais le mieux. Le mari d'Eriphile est absent pour le moment. Il est parti pour Mégare. Quant à elle, c'est la plus belle femme que le monde ait jamais vue. Tu commences par m'intéresser. Encore une condition, Dieu au carquois d'argent. Donne-moi ta parole de n'employer que des moyens dignes de toi, de n'agir en brut en aucun cas, comme Arès par exemple, ou bien, entre nous soit dit, comme notre père commun, le dieu de la foudre. Pour qui me prends-tu donc ? Riposta Apollon. Alors, tout est dit. Je vais te montrer la belle Eriphile. Un souffle d'air emporta les deux divinités des hauteurs du Pnyx, et ils se trouvèrent au-dessus d'une maison, près du Stoa. Hermès en souleva le toit de sa main puissante, aussi facilement qu'une cuisinière enlève le couvercle d'une marmite, et ils virent une femme assise derrière la grille cuivrée d'un magasin à l'abri d'un rideau de laine. « Regarde, » dit-il. Apollon regarda et resta pétrifié. Jamais l'Attique, jamais la Grèce entière n'avait produit pareille fleur de beauté. À la lueur d'une veilleuse à trois becs, elle écrivait, penchée sur de petites tablettes de marbre. De longs cils de ses paupières baissées projetaient une ombre sur ses joues. Mais dès qu'elle levait sa figure pensive, cherchant à rassembler ses souvenirs pour continuer ses notes, ses yeux admirables paraissaient plus bleus que l'onde azurée de l'archipel. C'était tout simplement le visage de Cypris, blanc comme l'écume des vagues, rose comme l'aurore, à la bouche vermeille comme la pourpre de Syrie, à la chevelure ondulée d'or. Belle, la plus belle entre toutes, belle comme la fleur, comme la lumière, comme la mélodie. Les yeux baissés lui donnaient un air de douce sérénité divine. Levée au ciel, la faisait paraître inspirée. Le dieu du soleil sentit trembler ses genoux. Soudain, il appuya sa tête contre l'épaule de son compagnon en murmurant « Je l'aime. Celle-là et nulle autre. » Hermès sourit malicieusement. Il se serait frotté les mains de contentement sous les plis de sa chlamyde s'il n'eût tenu son caducé de la main droite. La femme aux cheveux d'or prit une tablette et commença à écrire. Ses lèvres séduisantes s'entr'ouvrirent et elle murmura d'une voix plus suave que le son du luth « Mélanoclès, membre de l'aéropage, doit, peint durant 2 mois, 45 drachmes, 4 oboles. Pour faire un compte-rond, mettons 46 drachmes. Par Athénée, j'écrirai 50 drachmes. Mon mari sera content. » « Ah, ce Mélanoclès, s'il ne nous cherchait pas noise pour un faux poids, je me garderais bien de lui faire crédit. Mais il faut rester en bon terme avec cette vermine-là. » Apollon, sourd aux paroles, s'enivrait de la douceur de la voix et du charme de toute la personne d'Eriphile. « Celle-là et nulle autre. » La femme aux cheveux d'or continuait. « Alcibiade doit galette au miel de l'Hymette pour l'étaillir Chrysalis, 3 mines. Celui-là ne vérifie jamais ses comptes. De plus, il m'a tapé une fois sur l'épaule. Je mets 4 mines. En vrai sot qu'il est, il paiera. Mais aussi cette Chrysalis. Est-ce qu'elle nourrit ses carpes avec mes galettes ? Ou bien Alcibiade veut-il l'engraisser pour l'échanger chez les Phéniciens contre des anneaux d'ivoire dont il ornera ses harnais ? Apollon, sourd aux paroles, s'enivrait de la voix et murmurait « Celle-là et nulle autre. » mais le fils de Maya replaça le toit et l'admirable vision disparut. Le dieu rayonnant crut voir s'éteindre la lune et les astres. L'univers entier lui sembla plongé dans les ténèbres. « Tiens-tu le pari ? » interrogea Hermès. « Aujourd'hui, à l'instant même. » « En l'absence du mari, elle couche au magasin. Tu peux te placer dans la rue, là, en face de sa fenêtre. S'élève le rideau et ouvre la grille, j'aurai perdu. »«
Tu as perdu !» s'écria le dieu aux flèches d'or.
L'éclair ne traverse pas l'espace avec une vitesse égale à celle que déploya Apollon pour se rendre dans l'archipel. Là, il prit chez Amphitrite une écaille de tortue, l'entoura des rayons du soleil pour en faire une lyre et revint à Athènes. La ville reposait dans un silence profond. Toutes les lumières étaient éteintes. Seule la lune, planant très haut dans le ciel, blanchissait temples et marbres. La boutique du boulanger se trouvait dans un enfoncement du mur, et la belle Eriphile y dormait derrière un rideau. Le dieu rayonnant s'arrêta dans la rue et toucha si légèrement les cordes de sa lyre que les moustiques qui bourdonnent sur les bords de l'Ilissus ne font pas plus de bruit. Mais la mélodie, pareille au torrent grossi par l'averse, s'éleva de plus en plus expressive, de plus en plus passionnée. L'atmosphère en frémit amoureusement, et l'oiseau mystérieux d'Athéna, rasant l'espace d'un vol silencieux, vint de l'acropole se percher immobile sur une colonne près d'Apollon. Soudain, un bras nu, digne du ciseau de Phidias ou de Praxitèle, plus blanc que les marbres du Pentélique, souleva le rideau. Le dieu rayonnant se sentit mourir d'émotion. La belle Eriphile parla.
« Quel est donc le polisson qui bat le pavé et musicaille ? N'est-ce pas assez d'avoir travaillé toute la journée ? Faut-il encore ne pouvoir dormir la nuit ?»«
Eriphile, Eriphile !» soupirait le dieu au carquois d'argent, et il chanta. Des sommets élevés du Parnasse, du séjour de clarté et d'azur où tout chante ma gloire, même les murs, moi, divinité adorée, je descends. Ouvre tes bras, ô Eriphile, et sur ton cœur, l'éternité ne me paraîtra qu'un moment. Ô Eriphile.
Par la farine sacrée des offrandes, s'écria la boulangère, c'est à moi qu'il s'adresse. Ne vas-tu pas fiche le camp, mauvais drôle que tu es ?
Le dieu du soleil, voulant prouver qu'il n'était pas un simple mortel, répandit subitement des rayons si lumineux que la terre et l'air en resplendirent. À cette vue, Eriphile s'écria
« Le drôle a tiré une lanterne de dessous sa chlamyde et veut se faire passer pour une divinité. Oh, fille du puissant Dios! On sait nous pressurer d'impôts, mais nous manquons de gardes scythiques pour conduire au poste des boriens de cette espèce. »
Apollon, sans se décourager, continuait de chanter
« Ouvre tes bras blancs et je te donnerai une gloire immortelle. » Tu seras plus célèbre que les déesses. Ton nom sera connu de tout l'univers. Je te ferai immortel, ô ma belle, par la puissance de ma parole divine. Tu seras plus adorée que toutes les reines de la Grèce. Ah, ouvre-moi tes bras. Je prendrai l'azur à la mer, la pourpre et l'or à l'aurore, les étincelles aux astres, la rosée aux fleurs, de ses lueurs, de ses couleurs. Je te ferai, ô mon adorée, une parure irisée, digne de Vénus. »
La voix merveilleuse du dieu de la poésie opéra un miracle. La lance tressaillit dans les mains d'Athéna. Sur l'acropole et sa tête de marbre se tourna vers Catopolis pour mieux entendre la mélodie enchanteresse. Le ciel et les eaux écoutaient avec ravissement. La mer cessa de bruire. Ses vagues s'arrêtèrent comme assoupies. La pâle Sélène même interrompit sa promenade nocturne à travers les espaces et resta immobile au-dessus d'Athènes. Lorsqu'Apollon se tut, le zéphyr se leva pour porter son chant à la Grèce entière. Tout enfant qui en recueillit un son dans son berceau fut sacré poète. Mais Apollon n'avait pas encore fini, qu'Eriphile se mit à vociférer.
« L'imbécile, il va trafiquer de rosée et d'étoiles. Il pense que tout lui est permis, parce que mon mari est absent. Que n'ai-je mes gens sous la main ? Je t'apprendrai à être raisonnable. Mais attends, petit maître, je t'ôterai l'envie de vagabonder la nuit. »
À ces mots, elle saisit le pétrin et en lança le contenu à travers la grille. Le dieu rayonnant reçut un jet de levure au visage, au cou, sur sa chlamyde, sur son luth. Il poussa un gémissement, et couvrant sa tête inspirée d'un pan de son vêtement souillé, il partit confus et furieux. Hermès, qui du haut du Pnyx avait vu la scène, riait à se tordre les côtes, gambadait et faisait tournoyer son caducée, mais quand le fils de Latone se fut approché, il feignit la compassion.
Je suis fâché que tu aies perdu ton pari.
Va-t'en, mauvais plaisant, riposta Apollon irrité.
Je m'en irai dès que tu m'auras donné l'empécie.
Que Cerbère te mord de mollet.
Je garde l'empécie et répète, va-t'en si tu ne veux pas que je te casse ton caducée sur la tête.
Le destructeur d'Argos savait qu'il ne faut pas plaisanter avec Apollon lorsqu'il se met en colère. Il s'éloigna prudemment et répondit,
« Si tu veux me tromper, eh bien, sois donc Hermès à l'avenir et moi je serai Apollon. Tu es plus puissant que moi, je le sais.
Mais il y a quelqu'un de plus puissant que toi, heureusement.
Il nous jugera. Je te somme de paraître devant Cronios. »
Apollon eut peur de ce nom et n'osa refuser. Le jour commençait à poindre. L'aurore aux doigts de rose s'avançait du côté de l'archipel et l'Attique émergeait lentement des ombres. Zeus avait passé la nuit au mont Ida. Personne ne savait ce qu'il y avait fait. Il s'était entouré d'un si épais brouillard que même Héra n'avait rien pu distinguer. Hermès tremblait quelque peu en s'approchant du père des dieux et du genre humain.
« La justice est de mon côté, se disait-il, mais si Zeus est de mauvaise humeur, il est capable de me saisir par la jambe et de me lancer dans un moulinet à quelque 300 stades. Il a des égards pour Apollon, mais avec moi, quoique je sois son fils, il n'ira pas par 4 chemins. » Cette erreur devait être vaine. Cronios, content d'avoir mené joyeuse nuit, heureux de sa gloire immortelle, contemplait la terre avec satisfaction. La terre, heureuse de porter le père des dieux et des hommes, s'épanouissait en herbes et en jacinthes, et lui, appuyant ses mains sur le sol, caressait les fleurs et se réjouissait dans son cœur orgueilleux. Ce que voyant, le fils de Maïa reprit courage. Il salua son père et se prit à accuser Apollon.
Jamais grêle ne tomba si dru que tombèrent ses paroles éloquentes.
Quand il eut fini, Zeus garda le silence, puis il demanda à Apollon
« Est-ce vrai, mon rayonnant ?»«
Oui, père Cronios, mais si tu me fais payer une amende après la confusion que j'ai subie, je descendrai aux enfers éclairer les ténèbres. »
Zeus redevint pensif. « Cette femme, demanda-t-il après un temps,
est restée sourde à ta musique et à ton chant? Elle t'a repoussé avec mépris?
Elle m'a jeté à la tête le contenu de son pétrin. »
Zeus fronça le sourcil et le mont Ida se prit à trembler. Des blocs de granit se détachaient en roulant avec fracas, les forêts pliées comme des épis de blé. Les deux jeunes dieux tremblèrent aussi et attendirent l'arrêt de Zeus, le cœur palpitant de frayeur.
« Hermès, dit Zeus, trompe les humains tant que tu voudras. Ils aiment à être trompés, mais laisse les dieux tranquilles, ou bien tu encourras ma colère.
Si je te précipite des espaces éthérés dans l'océan, tu plongeras si profond que même mon frère Poséidon ne saura te retirer avec son trident. »
Les genoux d'Hermès fléchissaient. Zeus parlait d'une voix de plus en plus tonnante.
« Une femme vertueuse peut résister même à Apollon quand elle en aime un autre.
Mais assurément, une sotte lui résistera toujours. C'est la sottise, non la vertu, qui a empêché Eriphile de succomber.
Ainsi, tu as trompé le rayonnant. Tu n'auras pas l'empécie. Maintenant, allez en paix. »
Les dieux partirent. Zeus resta seul, joyeux dans sa gloire. Il contempla un moment le superbe Apollon qui s'éloignait et murmura.
« Oh oui, il faut être une sotte pour résister au charme de la poésie et de la musique. »
Et comme il se sentait bien fatigué, il fit signe au sommeil qui, sous la forme d'un épervier perché sur une branche, attendait les ordres du Père des dieux et des hommes.
Ainsi s'achève l'arrêt de Zeus, de Henri Sienkiewicz.